Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très très heureux de vous accueillir pour le tout premier numéro d'Eurosport Confidential, le podcast où les champions vous livrent leurs souvenirs de sportifs et de fans de sport. Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor, notre partenaire, le Molitor, l'hôtel emblématique de la Porte d'Auteuil à Paris, à quelques mètres de Roland-Garros et du Parc des Princes. Alors trois parties dans cette émission et un menu entièrement concocté par notre invité. Il y aura d'abord la rétro perso, où notre invité évoquera pour vous un grand moment de sa carrière. Ce sera ensuite le jour où nous parlerons avec lui d'une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. Et enfin, dans Mon Idole, il vous dira quelle est la personnalité sportive qui est pour lui une source d'inspiration. Alors pour ce tout premier numéro d'Eurosport Confidential, il fallait un invité de marque et c'est le cas, tout sport collectif confondu. Il est le sportif français le plus titré de l'histoire. Il a tout gagné en club comme avec l'équipe de France. 4 Ligues des Champions, 2 titres olympiques, 5 titres mondiaux, 3 titres européens. Il est handballeur, il est le plus grand gardien de but de tous les temps. Et je pense que vous aurez tous reconnu Monsieur Thierry Omeyer. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
C'est avec beaucoup de plaisir.
Alors Thierry, d'abord on va évoquer juste cette saison qui est un peu particulière pour vous, la dernière de votre carrière, je trahis aucun secret, à la fin de cette saison ce sera fini.
Oui exactement, c'est vrai que j'aborde ma dernière saison en tant que sportif de haut niveau et j'espère faire une belle saison, en tout cas je vais en profiter un maximum, savourer chaque moment parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a guidé pendant 25 ans, le sport professionnel, et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu la chance de vivre beaucoup de belles aventures et j'ai encore envie de partager des bons moments avec mes coéquipiers, avec mon club et continuer de m'éclater une dernière année sur le terrain.
Bon, on suivra tout ça de très près, évidemment, tout au long de la saison. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec la première rubrique, la rétro perso. Alors pour cette première rubrique, on va voyager un petit peu dans le temps et dans l'espace. On va revenir 10 années en arrière, en 2008, et on va se transporter jusqu'à Pékin, en Chine. Alors Thierry, vu votre palmarès, vu votre parcours, il y avait le choix pour choisir un moment fort de votre carrière. Est-ce que malgré tout, un des deux titres olympiques, et le premier, parce que le premier c'est toujours particulier, ça a été une forme d'évidence quand même?
Oui, oui, bien sûr. Après, le choix le plus dur, c'était de choisir entre les deux, entre 2008 et 2012. C'est vrai que le titre olympique, c'est les Jeux, c'est la plus belle de toutes les compétitions. C'est la compétition universelle par excellence. Elle rassemble tous les sportifs, tous les pays, toutes les disciplines pendant 15 jours et tout le monde est. Et tout le monde du sport et au-delà même est focalisé autour de cet événement. Quand on est sportif de haut niveau, l'objectif c'est vraiment de pouvoir y participer un jour. Et au-delà d'y participer, gagner une médaille d'or olympique, forcément c'est l'accomplissement suprême quand on est sportif.
Et puis c'était le seul que vous n'aviez pas gagné à ce moment-là. Vous aviez été champion d'Europe, vous aviez été champion du monde. Mais pas de titre olympique. On va revenir un peu sur le contexte. Il y a les Jeux d'Athènes en 2004 qui ne s'étaient pas très bien passés pour l'équipe de France, ça avait été plutôt une déception. En 2006, il y a un titre européen. Et puis il y a ce mondial 2007 en Allemagne qui avait été particulier pour vous. On se souvient du dénouement en demi contre l'Allemagne, une fin de match très tendue, un peu polémique. Et pour vous, c'était particulier parce que si je ne dis pas de bêtises, c'était votre première saison à Kiel à ce moment-là. Et vous étiez à Kiel en concurrence avec celui qui était le gardien de but de l'équipe d'Allemagne. Donc à plein d'égards, c'était un match un peu particulier pour vous. Et le fait d'avoir perdu ce match-là, j'imagine que pour Pékin, les Jeux, c'était une revanche collective et personnelle peut-être?
Oui, bien sûr. Il y a eu ce mondial 2007 où vraiment on a eu un sentiment énorme de frustration. une grosse déception, mais on s'en est servi aussi. On s'en est servi pour se dire, voilà, quand un match il peut se jouer à des petits détails dans les dernières secondes d'un match, on voit qu'il peut nous échapper. Donc le tout, c'était de continuer à travailler, de progresser encore plus pour justement essayer d'éviter d'arriver dans ces moments-là où le match peut basculer des deux côtés et essayer de faire en sorte qu'on puisse être en capacité de gagner le match un peu plus tôt. Donc on a continué de travailler, on s'est entraîné dur, on a fait une préparation pour les Jeux Olympiques, vraiment, où on était tous... On a tous dépassé nos limites, on s'est tous poussés les uns les autres dans la souffrance pour justement arriver dans la meilleure forme physique possible aux Jeux Olympiques à Pékin. Franchement, on a vraiment travaillé dur et on s'est servi de toute notre expérience sur ces Jeux Olympiques. La frustration aussi de 2004 où en 2004 on perd qu'un match sur 8.
Ouais.
On gagne 7 matchs mais on ramène pas de médaille, on se fait éliminer en quart de finale, le match qu'il faut pas perdre. Et en 2008 on avait vraiment tout focalisé sur ce quart de finale.
C'était aussi peut-être la dernière fois, en tout cas des 10 dernières années, où l'équipe de France n'est pas arrivée en étant vraiment l'équipe à battre. Donc vous étiez encore dans une phase de conquête. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit de l'équipe et du vôtre en arrivant à Pékin ? Il y avait beaucoup de confiance, comment vous vous sentiez ?
En tout cas, c'était vraiment notre objectif de ramener une médaille. Comme vous l'avez dit, c'était la médaille d'or, c'était une médaille qui est une des seules qui manquait, voire la seule à pas mal de joueurs de cette génération.
C'est vrai que sans parler de titres, pour cette génération-là, il n'y avait même pas eu de médaille encore, contrairement au bronzé, etc. C'est vrai que cette génération n'avait même pas eu de médaille olympique.
Non, par contre, c'était une génération pour beaucoup qui avait déjà gagné les championnats du monde en 2001,
ouais.
Qui avait été championne d'Europe en 2006, et c'est vrai que. Ramener une médaille, c'était vraiment l'objectif fort. Et au-delà de ramener une médaille, je pense qu'on avait tous, dans un coin de nos têtes, l'envie de ramener cette médaille d'or. On commençait à arriver à maturité, vraiment avec des joueurs qui avaient, en 2006 déjà, réussi une très très belle compétition. Même en 2007, il y avait eu peut-être un peu plus d'irrégularité. Et puis on avait raté on avait raté la médaille. Et vraiment, on avait à cœur en 2008 de décrocher notre première médaille olympique. 2004, le souvenir de 2004, c'est un des souvenirs les plus durs parce qu'en 2004, on se fait sortir par l'équipe de Russie et qu'on retrouve en 2008 sur le quart. Et je pense que c'était bien de les retrouver parce qu'on voulait tous effacer ce souvenir de 2004.
C'était vraiment le point de bascule, ce quart de finale contre la Russie en 2008. Comme vous le dites, les retrouvailles, il y avait... Beaucoup, beaucoup de choses en jeu par rapport, évidemment, à la qualif pour les demi, mais ce qui s'était passé 4 ans avant. Le fait de gagner ce match-là, ça a été un cap. La médaille n'était pas encore gagnée, mais ça a quand même été un cap déterminant, j'imagine.
Oui, exactement. On avait parfaitement ciblé ce match. On sait que les quarts de finale, ça ne te donne pas de médaille. Par contre, ça peut te fermer la porte aux médailles. Oui. Et après, à partir du moment où tu es en demi, tu sais que... t'as 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. T'as fait une part importante déjà du travail, même si nous, on avait à cœur d'aller chercher cette médaille d'or.
Et puis vous aviez effacé quelque chose aussi. Vous aviez réglé un compte avec vous-même peut-être.
Ouais. On avait envie de vraiment oublier ce 2004, même si voilà, ça fait partie de l'histoire. Et je pense que la force aussi de cette équipe de France, c'est de s'être servi de ce qui s'était passé, des expériences un peu plus douloureuses, pour ensuite gagner 2008 et pour la suite aussi. Ça a été forcément toutes les compétitions où on n'a pas gagné, nous ont servi aussi pour l'avenir.
Alors les demi-finales, la demi-finale c'était contre la Croatie, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
La finale contre l'Islande, on va revenir sur ces deux matchs, mais à titre individuel, c'est deux des très grandes performances de votre carrière aussi. Est-ce que 2008, ça marque un des moments d'apogée à titre individuel en termes de performance pure ? Parce que même si c'est un sport collectif, il y a aussi l'expression individuelle et peut-être encore plus dans le poste de gardien de but. Et ça reste un moment particulier, je pense, quand même, dans votre carrière.
Oui, bien sûr. C'est le moment où j'arrive vraiment à maturité, où le poste de gardien, c'est un poste vraiment très difficile. et qui demande énormément d'expérience, peut-être un peu plus qu'un joueur de champ. Il faut avoir vécu énormément de matchs, énormément de situations différentes pour arriver à maturité. J'ai 31 ans en 2008, au moment des Jeux Olympiques.
Ouais, ça peut paraître tard, mais pour un gardien,
tard,
ça l'est pas. Ouais.
Ouais, exactement. On arrive à maturité 28-30 ans. 2 ans avant, en 2006, je fais ma première vraie grande compétition où je suis régulier sur toute la compétition. Je suis le meilleur gardien de l'Euro 2006. Et tout ça, ça donne de la confiance pour les compétitions ensuite. Je suis en Allemagne à ce moment-là, en 2008, qui est à l'époque le plus grand championnat du monde. Tu es confronté tous les week-ends à des joueurs que tu retrouves aussi sur les compétitions internationales. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment le sentiment de maîtriser tous les contours de mon poste comme jamais je l'ai fait auparavant. Et c'est vrai que ça se concrétise par deux grandes performances en demi et en finale. Ouais.
Dans des matchs comme ça, quand on est gardien de but, est-ce qu'on sent très vite qu'il y a un rapport psychologique aussi, c'est un bras de fer, le gardien contre les attaquants adverses. Est-ce qu'on sent assez vite qu'on va avoir le dessus?
Bah, c'est important, en tout cas, même si des matchs passés, par exemple, on retrouve la Croatie en demi-finale, qu'on avait battue en 2006 et en 2007 sur l'Euro et sur le Mondial.
Vous avez beaucoup battu après aussi, d'ailleurs.
Ouais, Et c'est important dès le début du match de reprendre l'ascendant sur les tyrans, de leur montrer qu'encore une fois, on va être présent et que ça va être un jour difficile pour eux. C'était un gros test aussi pour nous, hein, cette demi-finale, parce que les Croates, ils étaient champions olympiques en titre. C'était l'équipe, les France-Croatie à l'époque, c'était le gros match, vraiment ouais. les deux équipes qui avaient dominé ce début des années 2000. Et ouais, c'était pour nous, c'était vraiment un match très très important et on les a fait plier, mais au bout d'un gros gros combat, et le match il se décide sur la fin, hein, ouais. dans les dernières minutes du match.
Alors, une fois cette victoire en poche, la médaille est assurée, mais quand on est en finale des Jeux Olympiques, alors malheureusement vous l'avez connu après, un peu plus tard, ce qu'il faut c'est aller au bout. Vous retrouvez l'Islande et le risque, est-ce que c'était pas de se dire, la Russie, on avait réglé l'histoire de 2004, la Croatie, comme vous le disiez, c'était le grand rival, l'autre grande nation, et puis l'Islande, c'était une équipe solide, mais qui était plus un outsider dans ce tournoi olympique. Le danger, c'était de se dire, on a fait le plus dur.
Ouais, après, on est en finale des JO, c'est vrai que l'Islande était et c'est très certainement une surprise de les retrouver à ce niveau-là de la compétition, même s'ils ont ils avaient vraiment une très très belle génération avec énormément de joueurs qui jouaient en Bundesliga, des joueurs aguerris, à maturité, avec de l'expérience, comme Stefansson, un des plus grands joueurs, certainement le plus grand joueur islandais de l'histoire. Et c'est vrai que mais nous, on pensait à nous, on pensait, on voulait pas laisser passer cette chance, parce que les jeux, tu les joues que tous les 4 ans, tu sais pas si tu vas encore être là dans 4 ans. Une médaille d'or olympique, c'est quelque chose, tu peux pas laisser passer. Donc on était, je me rappelle l'avant-match, enfin c'était, on n'entendait pas grand-chose parce que tu sens qu'il y a de la pression, tu sens que c'est vraiment la finale des Jeux. C'est le rêve pour tout sportif de disputer ce match-là, mais on ne voulait vraiment pas le laisser échapper. Je pense qu'on a fait vraiment un match plein, on est bien rentré dans le match, même si au début c'est un peu serré, et au fur et à mesure on a réussi à les faire plier. Je pense que nous on était encore plus déterminés qu'eux pour aller chercher cette médaille d'or. Eux certainement à un moment, et peut-être
ils avaient réussi leur tournoi.
Voilà, on allait la chercher. Ouais. On allait chercher. C'était énorme parce que c'était le dernier jour, comme à chaque fois, parce que le hand, la finale c'est toujours le dernier jour, la finale des garçons, et il y avait tous les athlètes dans les tribunes, même si on était loin à Pékin, il y avait toute une tribune avec que des Français, la famille qui avait fait le déplacement, les athlètes qui avaient déjà terminé leur compétition.
Et ça rajoute un poids, ça, ou c'est un atout ?
Non, c'est un atout. C'est un atout. À chaque fois qu'on partait à un match, c'est ça que j'aime dans l'esprit des Jeux. On vit tous ensemble, tous les athlètes, dans le même bâtiment de l'équipe de France. Dès qu'il y a un athlète qui part à une compétition, on lui dit des petits mots d'encouragement. Et au fur et à mesure que nous, on avançait dans la compétition, on sentait vraiment que les autres athlètes, ils étaient derrière nous. Ils nous encourageaient. Et ça crée vraiment encore plus d'envie, plus de motivation, parce que tu as envie de décrocher cette médaille pour ton pays.
Alors, 5 buts d'écart, si je me souviens bien, à la fin. Vous qui avez tout gagné, quelle différence vous faites ? Est-ce que ce n'est pas forcément plus dur, entre guillemets, d'être champion olympique que d'être champion d'Europe, par exemple, où il y a une densité qui est assez énorme ? Aux Jeux olympiques, on sait qu'il y a moins d'équipes, il y en a 12, je crois. La différence, c'est quoi ? C'est plus que la performance, c'est l'émotion qui est peut-être pas plus forte, mais vraiment particulière par rapport à autre chose ?
Oui, si, pour moi, c'est au-dessus de tout. Bah, déjà, les Jeux, c'est très difficile parce que c'est que tous les 4 ans. Comme vous dites, il y a que 12 équipes à chaque fois. Donc déjà, il faut arriver à se qualifier. Oui. C'est vraiment, vraiment compliqué parce que déjà, tu as un champion par continent. Plus derrière, tu n'as que 7, voire 8 peut-être européens. Européen, donc qui sont les meilleurs dans cette discipline qu'est le handball. Donc c'est vrai que quand tu gagnes les Jeux, c'est un sentiment de plénitude. Tu es au-dessus, tu es sur le toit du monde. C'est un sentiment qu'on retrouve pas à un autre moment. Même alors, quand tu es champion du monde, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui est aussi très grand. Mais les Jeux, c'est au-dessus de tout parce que, comme j'ai dit, tu rassembles... Tous les regards sont focalisés sur ces Jeux olympiques. Il y a peut-être encore plus de pression parce que tu sais que tu vas pas forcément les rejouer 4 ans après ou tu sais pas ce qui peut se passer. Et donc ouais, les Jeux, il y a pas photo. Pour moi, ça reste la plus belle de toutes les médailles.
Jérôme Fernandez qui est dans les bras de Titi Omeyer, juste derrière le banc tricolore.
Quel moment énorme pour le sport français.
Il reste 5 secondes, 4 secondes maintenant. 2, 1. Christophe, ils sont champions olympiques !
Énorme satisfaction pour l'équipe de France. Après 2 titres de champion du monde, 1 titre de champion d'Europe, la voici, cette médaille d'or. La France est championne olympique.
2012 à Londres, rebelote, nouveau titre olympique. Vous faites une différence entre les deux en termes d'intensité d'émotion ou j'imagine qu'on n'est pas blasé de ce genre de choses.
Ah non, 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 parce que quand tu sors des Jeux en 2008, ce que tu regardes, c'est quand les prochains. Chaque fois, tu te fixes des objectifs par Olympiade. Voilà, moi, en 2008, j'ai déjà 31 ans. Je me dis, 2012, allez, il faut absolument que je pousse pour aller jusque-là. Et après, en plus, c'est à Londres. Il y avait toute ma famille, tous mes amis. Je pense que pour tout le monde, c'était plus proche. Ouais. On la vit plus. Et puis, c'était magnifique. Il y avait énormément de Français dans la salle. À partir des quarts de finale, on est allé jouer dans une salle où il y avait 12 000 personnes. Sur les 12 000, il y avait, je ne sais pas, 6, 8 000. On avait l'impression qu'il n'y avait que des Français dans
ouais,
la salle. Il y avait
presque ambiance. À domicile. Quoi.
Ouais, ouais. Il y avait vraiment une superbe ambiance. Conserver un titre olympique, c'était montrer aussi qu'on pouvait, après avoir gagné un titre, rééditer cette performance, exister encore 4 ans après, c'est quand même quelque chose d'énorme, même si on restait sur beaucoup de titres entre les deux. C'était très très fort et c'est pour ça que c'est très difficile de différencier les deux. J'ai même pas envie de différencier les deux titres parce que conserver un titre olympique, c'est quelque chose de très difficile aussi.
2008, vous êtes élu non seulement meilleur gardien du tournoi, mais vous allez être élu meilleur joueur de l'année, fin 2008. Ah, vous faites un sport co, vous avez un rôle particulier dans l'équipe en tant que gardien de but. Est-ce que ces honneurs individuels, c'est quelque chose qui compte pour vous ou ça vous passe au-dessus de la tête ? Souvent, on a l'impression que vous ne vous mettez pas trop en avant. Et je me demande si quand même, quand on reçoit, vous avez été élu aussi en 2010 meilleur gardien de tous les temps, ça compte pour vous ces petites choses-là ?
Oui, je pense qu'on est sportif quand même. La reconnaissance individuelle, elle est importante. Maintenant, si on fait un sport collectif, c'est pour gagner des titres. Et avant tout, pour moi, c'est gagner des titres avec mes coéquipiers. Si derrière, en plus, il y a une reconnaissance comme celle-ci au terme d'une année où on a pu gagner la plus grande de toutes les compétitions, forcément, c'est énormément de fierté. C'est un honneur aussi d'être sur la liste aux côtés de tous ces grands joueurs. Et ça montre aussi l'importance qu'on a pu avoir sur la performance de l'équipe et sur le résultat. Et au-delà de ça, ça met en avant mon poste. Le poste de gardien de but qui, pour moi, est primordial au handball. Et c'est vraiment un poste que j'adore et où je me suis éclaté, qui m'a permis de progresser, de grandir tout au long de ma carrière. Cette recherche de la perfection, parce qu'on ne termine jamais un match à zéro but. Et cette influence qu'on peut avoir sur le résultat d'un match, parce que le gardien, il est tellement sollicité. On sait qu'on va prendre des buts, mais on peut faire des arrêts, sauver des situations. Et c'est tout ça qui m'a fait m'éclater à ce poste-là.
Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission, le jour où on va aller encore plus loin dans le temps et il va aussi être question d'un gardien de but, même si on va quitter le handball. Deuxième partie d'Eurosport Confidential, la deuxième rubrique, le jour où. Et ce n'est plus Thierry Omeyer, le champion, qui va vous parler, mais Thierry Omeyer, le passionné de sport, et même Thierry Omeyer, l'enfant, puisqu'on va se rendre au 21 juin 1986 à Guadalajara. On voyage aujourd'hui après Pékin, Guadalajara, quart de finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France, celle de Michel Platini, et le Brésil de Zico, de Socrates. Pourquoi ce choix-là, Thierry ?
Tout simplement parce que c'est un match qui m'a marqué. C'est très certainement, enfin j'en suis sûr, c'est mon premier grand souvenir de sport dont j'arrive à me remémorer, où je sais exactement où j'étais et comment j'ai vécu ce match. J'ai encore plein d'images dans la tête de ce match-là. J'avais 9 ans, alors ça ne me rajeunit pas, mais c'est vrai que c'était vraiment un très très grand match. C'était la Coupe du Monde 86 au Mexique, et c'est vrai que ce match, il m'aura vraiment marqué. Ouais.
Et c'est vrai que pour confidence pour confidence, on est la même génération, on a quasiment le même âge. Et c'est marrant ce que vous dites, parce qu'effectivement, moi, je me souviens aussi très bien où j'étais, avec qui, j'ai plein de flashs. Pour les gens de notre génération, ça a été un peu notre France-Brésil 98, quoi. Même s'il n'y a pas eu de titre mondial au bout, mais ce match était extraordinaire. Il faut se souvenir qu'avec le décalage horaire, le match avait lieu à midi heure locale, donc il était à un horaire parfait pour nous, c'était 20h ou 21h, je ne sais plus, c'était 8 ou 9h de décalage. Mais pour nous, c'était comme un match en prime time, entre guillemets. Et c'est le match d'une génération pour ses joueurs, mais aussi pour les téléspectateurs qu'on était.
Ouais. Après la Coupe du Monde, forcément, c'est des moments très forts. Nous, on regardait ça toujours avec mes parents, avec mes frères. C'était des moments aussi où on pouvait se retrouver avec les amis autour d'un barbecue. Vivre ce match-là, être à fond. Alors,
c'était déjà un samedi soir en plus.
Ouais,
c'était un samedi. Donc,
et déjà, il y avait eu le France-Italie 2-0 qu'on avait gagné en 8e. Et là, retrouver le Brésil, et c'est vrai qu'on n'était pas forcément favoris. En tout cas, c'était un gros match, hein, parce qu'en face, on avait une grosse équipe aussi. Mais c'était vraiment un super match. Et on avait tous envie de voir l'équipe de France gagner ce match-là. Et moi, alors il y a des moments très forts qui m'ont marqué dans ce match. Et un truc, alors peut-être c'est pour ça un peu que je suis devenu gardien, j'en sais rien, où j'avais déjà l'âme d'être gardien, mais je me rappelle de ce penalty sorti dans le temps réglementaire par Batz à un partout, je crois. Ouais. Et je me rappelle Platini qui va dire quelque chose à Batz. Et c'est Zico qui tire, je crois.
C'est Zico, ouais.
Et Batz qui l'arrête. Et moi, j'étais comme un fou, parce que tu te dis qu'à ce moment-là, si tu prends un but, on était déjà revenu une fois au niveau du score, ça allait être compliqué. Mais un partout, alors, ça reste pour moi un des plus grands matchs. Et je pense que beaucoup de gens ont dit que ça reste un des plus grands matchs de l'histoire. Et moi, ce match, à l'époque, on avait un magnétoscope et ce match, on l'avait enregistré. Je l'ai regardé plusieurs fois parce que il n'y avait pas autant de sport que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça reste un moment très fort. Les pénalties derrière, Platini qui rate et puis la délivrance avec Fernandez.
Ouais, y avait tout dans ce match. La qualité d'abord, cette équipe du Brésil qui est peut-être esthétiquement, en tout cas, la dernière équipe du Brésil fidèle au fameux Joga Bonito. Et puis cette équipe de France qui était championne d'Europe. Le scénario de dingue, le pénalty arrêté, la faute sur Bellone en prolongation, des occasions de tous les côtés. Vous étiez déjà handballeur à l'époque, vous jouiez déjà et vous étiez gardien déjà ou pas?
Non, j'étais pas encore gardien. J'y suis allé à l'âge de 12 ans. C'est vrai que donc 2-3 ans après. Mais j'ai toujours été attiré par ce poste. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je jouais au foot avec mes amis, on jouait derrière chez moi, chez mes parents. J'ai jamais joué en club, mais je me mettais souvent gardien. Je me prenais pour Joël Batz. Parce que c'était les souvenirs. Forcément, quand tu regardais à la télé, tu t'identifies au genre de l'équipe de France. Mais je me rappelle que j'allais plus souvent dans les buts déjà. Et puis derrière, j'y suis allé naturellement un peu plus tard au handball aussi.
Vous avez déjà échangé avec des gardiens de foot, je ne sais pas, Fabien Barthez, des gens comme ça, et quelle différence il y a entre les deux ? Évidemment, au niveau technique, ce n'est pas du tout... vous plongez peu ou pas ?
Oui, différemment en tout cas.
Mais peut-être que la dimension psychologique, elle, avoir quelque chose de comparable ?
Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de rencontrer Fabien Barthez, mais aussi les gardiens de la génération actuelle, Hugo Lloris ou Steve Mandanda. J'ai été invité à l'époque de Laurent Blanc, sélectionnaire, à l'initiative de Franck Raviot, qui est toujours entraînant des gardiens de l'équipe de France, à passer une journée avec eux, à échanger justement avec les gardiens de l'équipe de France de foot. Je m'y suis essayé aussi, mais...
Vous étiez perdu là-dedans, non ?
Ouais, non, les buts sont beaucoup plus grands. Enfin, c'est différent. Nous, les tirs viennent d'en haut. Là, les tirs viennent d'en bas. Nous, pour aller sur les parades basses, on y va avec les pieds. Ils y vont plus avec les mains en plongeon. Maintenant, il y a de la similitude, bien sûr, au niveau de l'approche psychologique, de ce côté décisif qu'on peut avoir sur. Alors, au foot, ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Oui, ils sont moins sollicités que vous. Ouais.
Voilà, une erreur, forcément, un but a une beaucoup plus grande incidence que nous au handball. Alors, après, il peut y avoir des similitudes, nous, dans le money time, où on n'a pas le droit où il faut faire l'arrêt. Et au foot, comme l'arrêt à la 85e ou à la 86e minute, tu es obligé de rester concentré et tu n'as peut-être pas eu beaucoup de travail à faire pendant tout le match. Donc, ouais, il faut rester concentré et rassurer ses coéquipiers aussi. Je pense que quand on sent que derrière, on a un gardien qui rassure de par la parole, mais aussi de par ses interventions, qui dégage de la sérénité, je pense que c'est très important pour les défenseurs. Ils défendent différemment.
Alors pour revenir sur France-Brésil 86, c'était qui les joueurs que vous admiriez particulièrement dans cette équipe ? Platini, Batz ?
Oui, forcément, Platini, Batz. Il y avait toute cette équipe avec Tigana, enfin, qui était déjà l'équipe en place 2-3 ans après. Après, par la suite, j'ai revu forcément 82, 84. voilà. Mais à l'époque, j'étais vraiment trop petit pour avoir des souvenirs. Peut-être que je l'avais certainement vu. Mais ouais, c'était Platini, forcément, voilà, un énorme joueur. Et c'est vrai que c'était difficile de le voir au moment en direct, de le voir rater le pénalty. Mais et puis je me rappelle aussi, il y a eu un pénalty, je crois, où on marque, elle fait poteau, tête du gardien, elle rentre.
Oui, c'est
quelque chose comme ça.
Le tir au but de Bruno Bellone, ouais, qui tape le poteau, qui ressort, et le Carlos, le gardien brésilien, qui la remet dans le but.
Il pouvait rien nous arriver.
Non, c'est sûr. Ouais. cette génération n'a pas été championne du monde, malheureusement. Elle s'est arrêtée en demi-finale en 86, quelques jours après, contre l'Allemagne, comme en 82, mais avec un scénario beaucoup moins épique. Vous qui êtes un compétiteur, malgré tout, les souvenirs, la passion, en tout cas comme suiveur, comme spectateur, ça ne tient pas forcément au titre. On peut avoir des souvenirs immenses avec l'émotion générée. Un match comme France-Brésil, d'une certaine manière, pour nous, ça vaut un titre en termes de souvenirs, même si pour eux, certainement pas.
Oui, bien sûr. On se rappelle, mais pareil, le match de 82, il aura marqué toute une génération aussi. Forcément, ce match-là, ce quart de finale France-Brésil, en plus, c'était au Mexique, il y avait plein de forcément beaucoup plus de Brésiliens que de Français. Et tout ça fait que, oui, tu t'en rappelles, et ça reste des souvenirs qui ont marqué l'histoire du sport, et en tout cas du sport français, certainement du sport brésilien aussi, même si c'était un souvenir plus négatif. Mais oui, le sport ne... Enfin, ça, c'est pas que les titres, c'est les moments d'émotion qu'on peut vivre, et parfois c'est des victoires dans la compétition la plus prestigieuse dans le foot. Mais on se rappelait aussi du quart de finale de 2006, c'était la France-Brésil aussi qui était un très bon match aussi de l'équipe de France avec Zizou et une autre génération, mais un énorme joueur aussi.
Oui, c'est clair. France 98, pour vous, c'est un souvenir qui est moins intense. C'est quoi ? C'est la force du souvenir de l'enfant aussi, peut-être, qui prime là-dessus ?
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, on me demande de choisir des moments de sport. Il y en a eu énormément que j'ai pu suivre, que j'ai pu admirer. France 98, forcément, je m'en rappelle aussi. J'étais encore jeune, j'avais 21 ans. C'était en France, et j'ai eu la chance de vivre ça aussi de l'extérieur avec toute, tous ces gens qui étaient dans la rue et de pouvoir vivre un moment de communion comme ça avec tous les gens, c'était moi devant derrière ma télé, c'était énorme. On vibrait aussi avec cette équipe de France, le fait que ce soit organisé en France aussi. Maintenant, j'avais envie de revenir sur ce moment-là, qui c'est un match qui m'a marqué, que j'oublierai jamais et qui reste mon premier grand souvenir de sport, même si après il y a eu les Jeux de 92 qui m'ont marqué aussi avec la première médaille pour le handball français, la Dream Team et tout ça, Jordan. Enfin voilà, c'était à l'époque on n'avait pas cette chance de pouvoir suivre autant de sport. Dès qu'il y avait du sport, moi j'allumais la télé, je regardais les chaînes où c'était retransmis. On n'avait pas énormément de chaînes, c'est pour ça aussi que j'avais envie de revenir aussi loin.
1986, vous avez un souvenir de la demi-finale perdue contre l'Allemagne?
Ouais, 2-0, on prend un but à la fin, je crois.
Un but au début et un but à la fin.
Un but au début, le deuxième à la fin. Après, on y croit pendant tout le match, mais on voit quand même qu'on est un peu... Enfin, que l'Allemagne... J'ai l'impression qu'on
va pas y arriver.
Ouais, qu'on va pas y arriver, que le match d'avant a tellement... l'équipe de France était tellement contente d'être passée. Et après, ouais, il y a... Mais c'est là où il y a le choc Baptiste.
C'était en 82. Le match de 86 était beaucoup moins. Même si l'élimination était.
Je me rappelle de la finale aussi, 3-2.
Avec l'Argentine.
Contre l'Allemagne, Argentine-Allemagne, ouais.
Et le foot, à l'époque, vous étiez supporter assidu du Racing, peut-être, de Strasbourg, parce que vous êtes alsacien. Ouais. C'était quoi votre équipe de cœur?
Ouais, j'aimais bien après j'ai pas eu l'occasion d'y aller avant le début des années 90 où j'étais allé voir mon premier match de foot en live, le Racing Strasbourg à l'époque. C'était un Racing Saint-Étienne, je pense.
À l'époque de Franck Leboeuf, non?
Peut-être juste un peu avant, et puis j'aimais forcément le Racing quand on est petit, que voilà, dans ma région. Et après j'ai toujours alors, c'est pas parce que j'y suis aujourd'hui, mais j'ai toujours beaucoup aimé le Paris Saint-Germain. C'était mon club, parce qu'en plus, à l'époque, ils étaient un peu meilleurs que le Racing. Même si Racing avait une bonne équipe, ils étaient en Coupe d'Europe. Dans les années 90, ils ont eu des belles années.
Ils ont une très très belle équipe dans les années 90 avec Franck Leboeuf, Mostovoy. C'était une très belle équipe, ouais.
Et puis là, très content de les revoir en
Ligue 1,
en Liga avec un super public derrière.
Ok, allez, on va passer à la troisième et dernière partie. Mon idole, et après avoir parlé handball, après avoir parlé football, on va quitter les sports collectifs pour évoquer aussi une petite balle ronde, mais beaucoup plus petite qu'au foot ou au handball. Mon idole, ou plutôt son idole, l'idole de Thierry Omeyer, la personnalité sportive qu'il a choisi d'évoquer aujourd'hui, c'est un tennisman, il a remporté 20 titres du Grand Chelem, c'est Roger Federer. Alors, pourquoi Federer, Thierry? Et pourquoi le tennis d'abord? Est-ce que c'est un sport que vous aimez particulièrement?
Ouais, j'aime beaucoup le tennis. C'est vrai que j'ai toujours le handball, c'est un sport co, et j'ai toujours fait ça tout au long de depuis que je suis tout petit, parce que mes parents jouaient tous les deux. Mais tous les étés, c'est vrai qu'on quand il y avait la trêve au niveau handball, avec mon frère jumeau Christian, on allait jouer au tennis, pas toute la journée, mais presque, parce que on adorait faire du sport. Et puis le début de l'été, ça correspondait aussi avec Roland Garros. On regardait les matchs à la télé, et puis derrière, on avait envie plus que de regarder les matchs, plutôt d'aller jouer nous. Donc j'ai toujours beaucoup aimé le tennis. Et puis alors après, il fallait choisir. J'ai beaucoup de grands sportifs. J'ai essayé de m'inspirer un peu de tout, mais j'avais envie d'évoquer Roger Federer parce que pour tout un tas de raisons.
Alors lesquels?
Déjà pour sa longévité, je pense que voilà, il arrive, il a gagné le recordman du nombre de grands chelems, mais il est encore là aujourd'hui à 37 ans dans un sport comme le tennis.
Vous vous retrouvez un petit peu
Dans
votre parcours aussi.
Ouais, c'est forcément une source d'inspiration aussi que de voir d'autres grands sportifs. Alors là, c'est une légende de son sport et qui qui se remet en question en permanence malgré tous les titres gagnés. Et puis j'étais très content de le revoir gagner après deux ans peut-être sans grand chelem ou un peu plus.
Ouais, plus que ça même. Un peu plus, ouais. Entre Wimbledon 2012 et l'Open d'Australie 2017, donc 4 ans et demi sans grand titre.
Où peu de gens pensaient qu'il allait en regagner. Et c'est puis clair. Là, il en a regagné.
Imaginez, ça se termine là-dessus sur un challenge correct, parce que là, si la balle touche, c'est terminé. Hein. Terminé.
Elle touche.
Incroyable dénouement. Et ça y est, pour l'éternité, le match gravé à jamais, cette finale Federer-Nadal avec, pour la première fois depuis une décennie, Roger Federer qui bat Rafael Nadal en finale de Grand Chelem. C'est ici, à Melbourne Park, sur la Rendezvous Arena, que ça se produit. C'est tout simplement hallucinant, monstrueux.
Ce qui me plaît chez lui aussi, c'est justement, alors on a l'impression qu'il est tellement facile, c'est la recherche de la perfection en permanence et cette envie de... Je pense qu'avec le temps aussi, il a été capable d'évoluer, de changer son style de jeu, de rechercher des choses pour continuer, ou en tout cas pour revenir et pour gagner. Et je pense que ça, c'est la marque aussi d'un très très grand, d'être capable de remettre en question certaines parties de son jeu, d'être plus offensif.
Surtout qu'il l'a fait après 30 ans, ce qui est quand même un pari très compliqué et très risqué, mais il a dû estimer qu'il n'avait pas d'autre choix. Ouais. Et c'est vrai que ça a été payant finalement.
Oui, et puis c'est un joueur qui... Il dégage tellement de facilité, t'as l'impression que... Mais en même temps, il continue de travailler, il essaye de chercher vraiment le coup parfait à chaque moment. Cette capacité à gagner. Et puis les duels, je pense qu'un grand sportif aussi, ça se mesure de par la concurrence, et puis les duels Federer-Nadal. Moi, c'est ce qui a guidé les 10 ou 15 dernières années. Avec Djokovic qui est venu se greffer là-dessus, et ça donne trois énormes athlètes qui ont laissé très peu de choses aux autres sportifs.
Vous l'avez vu jouer en vrai, Federer?
Alors j'ai eu la chance de le rencontrer aux Jeux Olympiques à la cérémonie d'ouverture.
En 2008.
Je crois que c'était 2008. J'ai vu 2008 et 2012, ouais. Je pense. Voilà, il y a des sportifs comme ça où ça fait plaisir, quoi. Ça, tu les rencontres, tu dis, tu fais la cérémonie, tu vois des filles avec le drapeau, tu vas faire une photo. Et puis oui, j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois à Roland-Garros. Alors, j'ai jamais eu la chance de le voir à Wimbledon. C'est vrai que ça aurait été quelque chose qui m'aurait bien plu parce que... voilà, c'est son jardin.
Ouais,
un peu plus que Roland Garros.
Surtout que là, à mon avis, pour le voir à Roland Garros, maintenant, ça va être très compliqué. Les grands souvenirs, vous parliez des duels avec Nadal, vous avez des matchs en particulier qui vous reviennent en mémoire avec Federer?
Ouais, bah après, c'est plus un match qu'il a perdu aussi, mais
la finale de
à Wimbledon. Mm-hmm. Où c'est vrai que c'est dur quand moi j'étais plus pour Federer, mais c'est vrai que ça reste un match énorme et j'aurais tellement aimé qu'il le gagne, mais bon après voilà c'est aussi quand tu tombes contre un joueur comme Nadal qui a aussi eu cette capacité de sortir un match comme ça sur un gazon qui n'est pas forcément sa surface. Et on ne pensait pas, je pense, au début de la carrière de Nadal qu'il allait être capable de gagner aussi des matchs sur gazon. Donc ça restera un match énorme, même si ce jour-là, il avait perdu. Mais Federer, c'est la classe quand même.
Et vous êtes fan de Federer depuis... vous vous souvenez depuis quand? Depuis ses tout débuts pratiquement ou
Non, mais je pense au fur et à mesure. Après, c'est ce côté justement... j'essaie toujours de prendre ce que je peux prendre chez les autres sportifs en les observant. Chez Federer, c'est ce côté en recherche de la perfection qui moi me correspond bien, parce que c'est comme ça que je suis. J'ai toujours été très exigeant avec moi-même, toujours envie de faire mieux, de progresser. Et dans le poste de gardien, on est un peu dans cette approche individuelle qui peut exister au tennis, où tu peux compter que sur toi. C'est-à-dire, alors au handball, bien sûr, il y a la défense, mais dans ta préparation individuelle, t'es tout seul, enfin dans ta performance derrière, c'est toi qui vas arrêter la balle, c'est toi qui vas devoir répondre présent, et ça c'est quelque chose du coup, où je peux m'inspirer plus de cette capacité qu'ont les sportifs individuels à devoir répondre présent et tout le temps, et de compter que sur eux. Et ça, dans l'approche mentale, psychologique, je pense qu'on retrouve ça aussi dans le poste de gardien de but.
Donc c'est dans la quête de la perfection de quoi ? Du geste technique du...
Ouais, et puis d'essayer de faire à chaque fois la parade qu'il faut, l'arrêt qu'il faut. Voilà, comme j'ai dit, au handball, je ne pourrais jamais faire le match parfait parce que je terminerai jamais à zéro but encaissé. Donc tu te dis toujours, tu peux faire mieux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a animé tout au long de ma carrière et qui m'a fait avancer.
Il y a d'autres joueurs qui vous plaisent dans le tennis d'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, je ne sais pas, où vous avez l'impression que quand cette génération-là va partir, Federer, Nadal, Djokovic, il va y avoir un creux assez important.
Alors on verra. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une énorme génération qui va s'arrêter. En plus, Djokovic est peut-être un peu plus jeune, avec Nadal, ils vont encore jouer
Nadal
encore un
32,
peu.
Ouais.
Surtout qu'il a eu 2 ans un peu moins Djokovic, donc c'est, en général, ça permet de rallonger un peu quand même quand tu joues un peu moins pendant un petit moment. Après. Je pense qu'il y a des nouveaux joueurs au fur et à mesure qui vont arriver, qui vont prendre la place dans l'esprit des gens. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais à l'époque, moi, je me rappelle, il y avait Edberg, Becker, Agassi, Lendl, Sampras derrière. Enfin, il y a eu plein d'énormes joueurs et on se disait peut-être à l'époque aussi, derrière ces joueurs-là, qui va arriver. Donc, après nous, forcément, je pense que tu restes toujours un peu plus sur tes souvenirs de quand t'es jeune et de ces grands joueurs. On a eu la chance de pouvoir vivre à cette époque-là, mais dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura d'autres joueurs qui vont être présents. Après, être en capacité de gagner et de dominer comme l'ont fait les trois là, peut-être pas, mais ce sera peut-être plus éparpillé.
Et alors à l'époque de l'enfance, de l'adolescence, parmi les noms que vous citiez, Edberg, Becker, tout ça.
Moi c'était Edberg.
C'était Edberg.
Ouais, Edberg, j'adorais. Les duels Edberg-Becker aussi. Mais c'est vrai que Edberg, j'aimais beaucoup. Je suivais vraiment beaucoup le tennis, notamment à l'époque de Roland Garros, parce que c'était plus dur de suivre les autres grands chelems à l'époque à la télé. Je regardais beaucoup, je connaissais tous les vainqueurs, enfin voilà, j'aimerais vraiment beaucoup. J'étais très content aussi, c'était en 90 je crois, c'est Gomez, qui avait l'équatorien qui avait gagné et qui était cette année là Lendl, je sais pas s'il était blessé ou s'il s'était fait sortir,
il avait fait l'impasse en fait pour se préparer pour Wimbledon,
et du coup qui était quand même la bête noire je crois à l'époque
de Gomez
et du coup cette année là il avait
un
gagné,
gros,
j'étais
gros,
très content.
Gros connaisseur quand même.
Ouais, je connaissais
Andrés Gomez,
Je suivais beaucoup vraiment à l'époque, surtout Roland Garros, comme dit.
Vous disiez quand vous inspiriez de sportifs comme ça, donc dans le cas de Federer, la quête de perfection, quand vous regardez un match, un Federer-Nadal par exemple, une finale de Grand Chelem, est-ce que vous vous affranchissez quand même du compétiteur et du sportif de haut niveau que vous êtes ? Vous êtes un fan entre guillemets de base, ou vous êtes quand même, vous avez un œil de sportif de haut niveau ?
Un peu des deux, ça dépend les moments. C'est vrai que ce qui m'arrive le plus, c'est quand je regarde des sports où il y a des gardiens de but. Et là, j'essaie vraiment toujours d'analyser un peu comment ils réagissent dans un match de foot, comment il va être après une petite erreur ou un moment où c'est un peu plus difficile. Sur un match de tennis, c'est un peu pareil, parce que des fois, il y a des points assez faciles qu'ils peuvent rater. Comment ils arrivent derrière, je me pose la question, comment derrière tu arrives à mettre ça derrière ?
À passer à autre chose tout de
suite. Et à passer à autre chose. Et c'est un peu ce que moi je retrouve aussi au quotidien. Quand j'ai fait une petite erreur sur un but, tout de suite repartir et mettre ça derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, parce que quand j'étais jeune, quand je faisais une ou deux erreurs, ça me travaillait pendant de très longues minutes pendant le match et ça me sortait du match. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à apprendre à mettre plus ça de côté et toujours me focaliser vers l'avant, revenir, réussir à être performant sur des fins de match alors que j'étais pas bon sur le début du match. Et ça, c'est des choses qu'on apprend et que j'étais pas capable de faire quand j'étais plus jeune. C'est pour ça que je dis que ce que je disais au début, le poste de gardien de but demande beaucoup d'expérience.
C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs chez Federer, ça, dans son évolution. On sait qu'au début de sa carrière, il se frustrait pour un rien. Le moindre point perdu, le moindre coup raté pouvait le faire dégoupiller. Et quand on voit le joueur qu'il est devenu et le calme qu'il peut avoir sur le court, c'est vrai qu'on perçoit une sacrée évolution aussi à ce niveau-là. Ne pas se laisser happer par ses frustrations, ouais, c'est une des clés dans le sport de haut niveau.
Oui, bien sûr. Il est calme, il dégage une sérénité aussi à tout instant. Et je pense que c'est important. C'est un duel, le tennis. C'est comme le duel tireur gardien ou handball. Il faut essayer de pas montrer le moindre instant de faiblesse à son adversaire. Et je pense que du coup, c'est important d'être serein, d'être calme et de pas s'énerver. C'est pareil, moi, des fois, quand je prends un ou deux buts du même joueur, il y a ce duel psychologique qui rentre en ligne de compte. Et justement, moi, j'essaie plus de me dire, OK, t'as marqué 1-2, mais attends, le troisième, c'est moi qui vais l'avoir, le quatrième. Et il faut essayer de rentrer dans la tête de l'autre. Et je pense que ça, c'est très important. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le tennis. Et parce qu'il y a aussi
ce duel psychologique. Dans le rapport de force psychologique. Voilà. Alors, on parle beaucoup du langage corporel qui est très important. Federer a un langage corporel assez neutre, lui. Même quand il fait un point énorme, il serre le point, et il va lâcher un common ou un kumiet en Suisse allemand, mais il est moins expressif que peut l'être un Nadal ou même un Djokovic. Vous, le langage corporel, on a l'impression, quand on vous voit sur le terrain, quand on vous voit comme ça, vous êtes quelqu'un de très calme, de très affable, vous vous transformez un peu sur le terrain. Et est-ce que c'est quelque chose de travaillé ou de purement instinctif ?
En tout cas, c'est quelque chose que je ne faisais pas autant au début de ma carrière. Et que j'ai appris à faire, qui s'est fait peut-être naturellement pour essayer d'évoluer aussi dans mon jeu, d'évoluer dans l'impact que je pouvais avoir sur mes coéquipiers, sur les adversaires. Essayer de montrer une grande présence, parce que des fois, tu es un peu moins bien dans un match, il faut essayer d'apporter autre chose.
Il faut en imposer quand même.
Oui, il faut en imposer, il faut essayer de rentrer dans la tête des adversaires, mais aussi de montrer à ses coéquipiers, voilà, on est là les gars, je suis là derrière, vous pouvez compter sur moi. Et tout ça, c'est vrai que le langage corporel, il rentre beaucoup en ligne de compte. Ouais, c'est quelque chose que... Alors, c'est vrai que je suis en dehors du terrain, je suis beaucoup plus calme. Et quand je rentre sur le terrain, j'essaie d'être beaucoup plus extraverti. J'adore jouer avec le public, avec les supporters. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi au fur et à mesure de ma carrière. Les matchs devant 10 000, quand j'étais en Allemagne, c'est 10 000 personnes. C'était mon quotidien. Mais à chaque fois, J'avais des frissons quand je rentrais sur le terrain parce que même si tu joues toutes les semaines devant 10 000 personnes, c'est ça le sport de haut niveau, c'est ça que tu as envie de faire et c'est pour ça que tu t'entraînes tous les jours dur, c'est pour vivre des moments avec le public.
Faire un sport individuel, c'est quelque chose qui aurait été possible pour vous ? Vous occupez un poste qui est quand même très particulier, qui d'une certaine manière vous faites presque une discipline individuelle dans un sport collectif. Vous auriez aimé faire du tennis, par exemple ?
Non, en tout cas, c'est vrai que j'ai ce côté un peu individuel, comme vous dites, dans le poste de gardien de but, mais j'adore justement faire ça pour mes coéquipiers, pour vivre derrière des moments de communion avec mes partenaires. J'aime ce côté individuel dans la préparation, dans le fait de devoir compter sur moi et vraiment d'être focalisé sur ma performance, de devoir à chaque fois apporter de la performance parce que sinon ça, c'est très difficile pour l'équipe de gagner, mais en même temps le faire pour mon collectif, pour mes équipiers, parfois les sauver quand ils ont fait une erreur en défense et c'est ça qui m'a fait, je pense, faire ce que je suis devenu. Ça m'a permis de me transcender, de me dépasser, de dépasser mes limites, justement parce que j'avais pas envie de décevoir aussi mes coéquipiers, mon équipe. Et du coup, j'avais envie d'en faire encore plus, même les jours où j'étais moins bien. Et très souvent, c'est sur des matchs où tu es un peu moins bien, tes coéquipiers, ils sont derrière toi. Et derrière, tu dis, je vais le faire pour les gars parce que il faut que j'arrive à chercher au plus profond de moi-même pour revenir dans le match.
Vous préférez être au meilleur que Federer, quoi.
Ouais, je suis très bien. Après, je suis très bien, très content de ma carrière. dans mon sport et tout ça. Après, il y a des grands, grands sportifs. Et comme dit Federer, c'est le sportif que j'ai choisi aujourd'hui, mais j'aurais pu en citer tellement d'autres. Un Michael Jordan qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune, avec cette capacité à être présent sur les Money Time, c'était énorme. Donc, c'est des sportifs qui me faisaient me lever la nuit. Mais voilà, j'avais envie d'aborder un peu tous les sports et aborder un sport individuel aussi pour ce côté un peu individuel qui existe à mon poste.
Vous êtes globalement un grand fan et un grand passionné de sport de toute façon.
Ouais, j'ai toujours adoré le sport. Quand j'arrêterai le handball, je continuerai à pratiquer le sport. Je me remettrai un peu plus au tennis parce que j'aime beaucoup. Et puis plein d'autres sports. En tout cas, le sport continuera de rythmer ma vie.
Et voilà pourquoi Thierry Omeyer était le parfait premier invité d'Eurosport Confidential. Vous serez un peu notre parrain, Thierry.
Très, très honoré.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous voir. Et puis, avant de se quitter, je voudrais qu'on parle de l'association dont vous êtes le parrain, je crois,
oui,
qui s'appelle Premier de Cordée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, c'est une association qui permet la pratique du sport dans les hôpitaux auprès des enfants. Qui leur fait découvrir des sports et aussi on essaye de changer un peu leur quotidien difficile. Donc on va intervenir et leur faire pratiquer des sports. J'ai eu l'opportunité d'aller plusieurs fois dans des hôpitaux, de leur faire découvrir le handball, mais aussi d'autres sports. Et avec les parents qui sont souvent aussi présents, ça leur permet de voir aussi leurs enfants des fois dépasser leurs limites, se dire ah non, je peux pas faire ça, et là ils essayent, et derrière ils voient qu'ils y arrivent, et pendant quelques instants ils oublient un peu leur quotidien à l'hôpital, et quand tu vois les sourires des enfants dans ces moments là c'est vrai que ça fait vraiment vraiment plaisir.
Voilà, l'association s'appelle donc Premier de Cordée. On mettra toutes les infos et toutes les coordonnées nécessaires sur le site. Merci encore Thierry Omeyer. Bonne
Merci
saison, bonne dernière saison avec le Merci. Paris Saint-Germain. On vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'Eurosport Confidential. Merci, au revoir à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.